VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est midi à Conakry, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Finalement, un accord pour parler sur le nucléaire iranien à Vienne, en Autriche. Plus de détails en fin de journal, mais tout d'abord, l'actualité en Afrique. RDC, Human Rights Watch, organisation de défense des droits humains basée à New York, demande au gouvernement congolais et à la MONUSCO, la mission onusienne sur place, d'arrêter Sylvestre Mudacumura. Le chef des FDLR, les Forces démocratiques de libération du Rwanda, opérant dans l'est du pays, qui est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale depuis 3 ans. Les explications d'Anneke Van Rooderbergla, chercheuse principale à la division Afrique de Human Rights Watch.
Son groupe continue à commettre des violations de droits de l'homme. Et juste dernièrement, il y a quelques mois, il y avait un directeur d'une école et son fils qui, selon les FDLR, ont donné des informations à des autorités de où se trouve un groupe des FDLR. Et les FDLR avaient décapité ce directeur de l'école et son fils. Ils ont mis les têtes sur des bâtons en vue de tout le monde. Donc c'est cette type d'atrocité qui continue. Le moment est venu que cet monsieur est arrêté. Je suis sûre que le gouvernement congolais et les casques bleus de la MONUSCO ont la capacité d'arrêter Sylvestre Mudacumura. Les choses qui manquent, c'est une stratégie pour identifier où il se trouve et une stratégie pour l'arrêter.
Anneke Van Rooderbergla de Human Rights Watch. Rwanda, le Parlement de Kigali débat du lancement d'une procédure de révision de la Constitution réclamée par près de 4 millions de pétitionnaires. Objectif, éliminer la limitation du nombre de mandats présidentiels. Un amendement visant à permettre au président Paul Kagame de se représenter en 2017. À Addis Abeba, en Éthiopie, deuxième jour du sommet anti-pauvreté visant à trouver des sources de financement pour le développement des pays les moins avancés, dont la plupart sont en Afrique. La réunion continue jusqu'à jeudi. En Côte d'Ivoire, l'école est désormais obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans. Une décision coûteuse pour le budget de l'État qui intervient à quelques mois de la présidentielle. Claire Morin-Gibourg.
L'école obligatoire, l'une des grandes ambitions du président Alassane Ouattara, selon ses propres termes, entre donc en vigueur dès la rentrée prochaine. Cette politique de scolarisation obligatoire, annoncée 3 mois avant la présidentielle d'octobre, va coûter 700 milliards de francs CFA à l'État, dont une grande partie devra payer les salaires de près de 5000 instituteurs et professeurs de collège qu'il faut désormais recruter. Cette décision est saluée par la société civile, même si beaucoup de problèmes restent entiers. Beaucoup d'enfants ne possèdent en effet pas d'acte de naissance leur permettant de s'inscrire à l'école. Et le recrutement massif d'un grand nombre de professeurs qualifiés peut également s'avérer problématique. Selon les chiffres du ministère ivoirien de l'Éducation nationale, près de 4 millions d'élèves ont fréquenté le primaire en 2014-2015. Et d'après l'ONU, le taux d'alphabétisation est de 56,9% pour les adultes contre 67,5% pour les jeunes. Des chiffres relativement faibles pour un pays qui se veut leader en Afrique de l'Ouest francophone.
La lutte contre l'Ebola en Afrique de l'Ouest, course contre la montre en Sierra Leone. Les autorités y ont proclamé hier une alerte sanitaire. Motif, la fuite pendant quelques heures de 2 malades d'Ebola de leur unité de traitement. Alors que le pays tente d'enrayer la propagation de l'épidémie, reparti à la hausse depuis près de 2 mois, Jacques Aristide.
Les 2 malades sont une femme de 32 ans et une fille de 8 ans, sans lien de parenté, qui ont réussi à s'échapper ensemble samedi matin de l'unité de traitement d'Ebola où elles étaient prises en charge à Hastings, dans la banlieue de Freetown, la capitale. L'information que rapporte l'AFP provient du Centre national de lutte contre Ebola. Toutes deux ont été retrouvées samedi dans la soirée. Les équipes d'enquête suivaient leur parcours pour identifier le nombre de personnes avec lesquelles elles ont été en contact durant la période de leur évasion. La semaine dernière, la Sierra Leone a annoncé la prolongation pour une durée indéterminée du couvre-feu nocturne en vigueur depuis le 12 juin dans des zones affectées des régions de Cambia et Port Loko dans le nord-ouest du pays.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Burkina Faso, la Cour de justice de la CEDEAO a tranché hier en faveur du CDP, le parti du président déchu Blaise Compaoré, dans le litige qui l'opposait à l'État burkinabé concernant le nouveau code électoral. Le tribunal suprême de la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest a statué qu'en bloquant la participation de certains leaders de l'ex-mouvance présidentielle au prochain scrutin présidentiel et législatif, le code en question viole les droits et les libertés des personnes lésées. Le reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Ronogo, sur cette décision de justice qui ouvre une nouvelle bataille politico-juridique au Burkina.
Après le vote du nouveau code le 7 avril passé, nous avons approché le président du Conseil national de transition, qui a valeur d'assemblée, autour de la disposition sur l'exclusion. Revivons cet échange avec le président Chérif Sy.
Je ne sais pas qu'est-ce que vous comprenez pas dans la formulation. On a dit que tous ceux qui ont contribué, soutenu une modification anticonstitutionnelle. Mais ce qu'il faut retenir, qui remet en cause le principe de l'alternance et qui conduit à une insurrection. Il y a eu 20 insurrections ici.
Avec le verdict de la Cour de justice de la CEDEAO en défaveur de l'État burkinabé, le député Alexandre Sankara nous a confié ceci.
C'était prévisible. Pendant le vote de cette loi, lors de la plénière, j'ai personnellement attiré l'attention de mes collègues députés sur justement l'imprécision de cette loi. Et j'avais prévenu que si on laisse ça en l'état comme ça, nous risquons d'avoir des problèmes avec la justice. C'est ce qui est arrivé. Non seulement la loi était imprécise, mais les griefs qu'on a visés pour voter cette loi ne tenaient pas. Parce que l'article de la modification de l'article 37 n'est pas anticonstitutionnel parce que la Constitution elle-même prévoit que certains de ces articles peuvent être modifiés, dont l'article 37. Or, nous on dit que ce qui a été fait là, c'est anticonstitutionnel. Or, ce n'est pas anticonstitutionnel. Deuxièmement, on dit que ça tendait à remettre en cause la limitation du nombre des mandats, ce qui n'est pas aussi vrai, puisque dans le projet de révision de l'article 37, on limitait le mandat à 3.
C'est avec une joie non feinte que le président du CDP, le parti de Blaise Compaoré, apprécie ce verdict favorable. Suivant Eddy Kamboyego.
La Cour de la CEDEAO a condamné le Burkina à revoir le code électoral pour permettre à ce que tous ceux qui souhaitent être candidats puissent l'être. Et c'est cela qui nous donne une raison de satisfaction, pas seulement pour notre parti, le CDP, et pas seulement pour les partis de l'ex-majorité. Et c'est tout le Burkina qui gagne. Et au-delà du Burkina, c'est l'Afrique qui gagne. Que nos populations puissent toujours se réconcilier, qu'il n'y ait pas de division. Et s'il y a des diversités de pensée, que les diversités de pensée puissent se traduire en programme dans les partis politiques et que nous allions voir nos électeurs. Que les électeurs soient le seul censeur du politique, c'est-à-dire à travers les urnes.
Maintenant que le vin du code électoral est tiré, comment le boire? Va-t-on modifier le code électoral pour se conformer aux dispositions de la CEDEAO qui, en même temps, interdit à ses pays membres de modifier leurs lois 6 mois avant les élections? Zoumana Ounougo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Les autorités chinoises sont l'objet de fortes critiques pour avoir appréhendé et interrogé plus d'une centaine d'avocats et d'activistes des droits humains dans les récents jours. Un coup de filet considéré par certains comme la pire campagne de répression menée en Chine depuis 2 décennies, chez Rubin Dorsil.
Selon une association d'avocats chinois basée à Hong Kong, 114 avocats et activistes défenseurs des droits humains venant de 18 provinces ont été convoqués par les autorités. Au moins 22 d'entre eux sont toujours en détention. Parmi les détenus figurent quelques-uns des avocats de droits humains les plus réputés du pays. Certains ont été contraints à la confession publique. La télé nationale a montré hier Zhai Yanmin admettant que ses camarades et lui avaient commis des actes ayant de graves conséquences pour la société chinoise. Cependant, l'historien chinois Zhang Lifan pense qu'avec cette campagne de répression, la justice a reculé en Chine. Cette opération elle-même peut être vue comme un recul pour l'état de droit, car défendre les droits du peuple est une activité régulière pour les avocats et ceux-ci agissent dans le cadre des prescrits de la loi, dit-il. Le département d'État américain se dit préoccupé par cette vague d'arrestations et la violation des droits humains en Chine.
Et pour terminer, succès aux négociations sur le nucléaire iranien à Vienne en Autriche. Le président Barack Obama vient d'annoncer à la télévision aux Américains que les négociateurs de l'Iran et de 6 grandes puissances, dont les États-Unis, sont finalement parvenus à un accord historique limitant les ambitions nucléaires iraniennes en échange de la levée des sanctions internationales contre Téhéran. Au terme de cet accord, l'Iran accepte notamment une inspection plus rigoureuse de ses installations nucléaires et l'imposition de limites à son programme nucléaire. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com et également sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.